Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il sera question de Donald Trump qui courtise les protestants évangéliques. Effectivement, le Journal de Montréal nous révélait qu'il sera de passage au Liberty University pour tenter de séduire l'électorat évangélique. C'est ce que nous apprend effectivement l'agence France-Presse dans un article intitulé « Donald Trump, les chrétiens évangéliques dans la mire du milliardaire ». Heureusement, mesdames et messieurs, les étudiants de cette prestigieuse université ne se laisseront pas séduire facilement. Voici ce que nous rapporte le Journal de Montréal à cet effet en publiant un article de l'agence France-Presse. L'annonce de sa venue, qui coïncide avec la journée commémorant le leader des droits civiques, Martin Luther King, a provoqué le scepticisme de nombreux étudiants qui ont annoncé qu'ils manifesteraient devant l'établissement pour afficher leur désaccord. Et l'article poursuit en disant ceci. Donald Trump n'a a priori rien pour séduire les évangéliques qui donnent historiquement leur voix à des candidats conservateurs sur les questions sociales. Effectivement, mesdames et messieurs, un bon nombre d'entre nous sommes des chrétiens évangéliques, des protestants évangéliques. Et moi, ce que je dis, étant moi-même un chrétien de foi protestante évangélique, eh bien, je crois que notre vote doit correspondre à nos valeurs. Mais peu importe qui nous sommes, et si je parle particulièrement aux Québécois ou aux Franco-Ontariens, si je parle, par exemple, je sais qu'on est écouté un peu partout à travers la planète, mais peu importe qui nous sommes, notre vote doit correspondre à nos valeurs. Trop de votes sont donnés, chez les évangéliques en particulier. Ils sont donnés en fonction de la personnalité du chef, en fonction de la préférence fiscale, en fonction de l'option constitutionnelle, par exemple si on est fédéraliste ou indépendantiste. Et donc, malheureusement, en bout de ligne, ce que ça produit justement des effets stériles. Parce que, spécialement nous, les évangéliques, nous avons des valeurs particulières, des valeurs auxquelles on tient, parce que nos valeurs sont fondées sur nos croyances. Maintenant, je veux faire une petite distinction ici. On peut avoir des croyances différentes, mais partager les mêmes valeurs. Par exemple, quelqu'un qui pratique l'athéisme, qui a une foi en la non-croyance ou ne croit pas en Dieu, peut avoir les mêmes valeurs que quelqu'un qui a la foi théiste, qui croit en Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement croyants théistes, qui sont des athéistes, qui sont contre l'avortement ou qui sont contre l'euthanasie. Ils vont partager les mêmes valeurs que les croyants de foi théiste ou athéiste. Et à ce moment-là, des valeurs, ce sont des priorités qu'on se donne. C'est ce qu'on met en valeur, c'est ce qu'on valorise, c'est ce qu'on priorise, c'est ce qu'on trouve important, c'est ce qu'on veut conserver, c'est ce à quoi on veut s'identifier. Les croyances, ça fait appel à la foi, ça fait appel à la théologie, ça fait appel à ce qui est fondamental en nous. Mais les valeurs, c'est ce qu'on priorise dans notre société. C'est ce qu'on met en haut de l'échelle. Maintenant, j'aimerais donner quelques points de repère à ceux qui nous écoutent en ce qui concerne nos votes. Pour ceux qui sont de foi théiste, eh bien, parce que cette émission s'adresse aux citoyens de bonne foi et également aux gens de foi, dans le Nouveau Testament, la question de la pauvreté n'appartient pas à l'État, mais à l'Église et aux chrétiens, aux individus. De plus, ce qu'on remarque, plus l'impôt est élevé, moins les gens sont généreux au Canada. On a un article d'argent.canoe.ca qu'il mentionne, pardon, et on a un article également de la presse qu'il mentionne. Et la Bible met en garde l'État de percevoir trop d'impôts. On voit ça dans Proverbe 29.4. Proverbe 29.4 nous dit « Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. » Ensuite, si le pays adopte des politiques fiscales qui vous sont chères, mais que l'Église est privée de liberté, est-ce qu'on est vraiment avantagé? Alors, c'est pour ça que nos valeurs doivent avoir une priorité supérieure à nos intérêts personnels, nos valeurs collectives en tant que croyants. Encore une fois, vous pouvez être des croyants de foi théiste ou des croyants de foi athéiste. Eh bien, mon vote, je le vote en tant qu'individu. Mais maintenant, mon vote, je veux l'exercer pour le bien supérieur de l'ensemble. Si, par exemple, le pays adopte des politiques fiscales qui sont chères, mais que l'Église est privée de liberté, est-ce qu'on est vraiment avantagé? Est-ce que le parti pour lequel je vote s'oppose aux subventions aux écoles confessionnelles, par exemple? Est-ce qu'il est favorable à la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'expression, ou est-ce qu'on veut justement museler les groupes religieux théistes? Vous savez, vous pouvez dire, ouais, mais c'est ça, mais toi, ça concerne juste les théistes, ça ne nous concerne pas, nous, les athéistes. Mais écoutez, mesdames et messieurs, oui, ça nous concerne parce que dans un débat social, s'il n'y avait pas le discours des théistes, on s'en irait tous dans la même direction. On s'en irait, et parfois, si on s'en va dans la direction, ça peut être la mauvaise. On peut frapper un mur si on est dans la mauvaise direction. On peut tomber en bas d'un précipice si on est dans la mauvaise direction. On peut rater une courbe si on est dans la mauvaise direction. Ça prend des gens qui nous alertent, qui nous éveillent, puis qui disent « Hé, un instant, il y a une courbe ici, ralentis. » Ou « Change de voie, on va se faire rentrer dedans. » C'est important qu'il puisse y avoir justement de l'opposition et de sains débats. Est-ce que justement le parti politique pour qui je veux voter veut réduire les privilèges qui sont octroyés aux groupes religieux sur le plan fiscal? Parce que quand on a justement des avantages sur le plan fiscal, eh bien à ce moment-là, ça nous donne des ailes, ça nous donne de pouvoir se déployer. Mais j'aimerais ça poursuivre avec ce que nous rapporte l'article qui a été publié par le Journal de Montréal. Voici ce qu'on nous dit également. Donald Trump n'a a priori rien pour séduire les évangéliques qui donnent historiquement leur voix des candidats conservateurs sur les questions sociales. Évidemment, on s'adresse ici aux États-Unis. Et pour le bénéfice de nos auditeurs qui ne savent pas qui est Donald Trump, eh bien Donald Trump, il se présente à la chefferie du Parti républicain aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a deux partis. Il y a un parti qui est plus à droite, donc les républicains, et il y a un parti qui est plus au centre, qui sont les démocrates. C'est à peu près l'équivalent du Parti libéral du Canada, à peu près. Là. Je réduis ça à sa plus simple expression. Centre, centre-gauche. Maintenant, Donald Trump, lui, veut être à la tête d'un parti qui est beaucoup plus à droite, les républicains. Pourquoi? Parce qu'il vise à ce que ce parti-là puisse l'amener à être le président des États-Unis. Donc, il aspire, au bout de la ligne, à être président des États-Unis. C'est comme si le Canadien aspire à gagner la Coupe Stanley. Donc, il veut faire partie de l'équipe des Canadiens pour, justement, conquérir la Coupe Stanley. C'est un peu ça si on fait le parallèle. Mais ce qu'on nous dit, justement, il n'y a rien pour séduire les évangéliques. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, chez les évangéliques, ce qui est important, ce sont les questions sociales. Et je poursuis avec l'article. Près de deux tiers d'entre eux disent, par exemple, que la position sur l'avortement oriente grandement leurs décisions au moment de glisser l'enveloppe dans l'urne. Jusqu'à tout récemment, pourtant, Donald Trump se disait totalement favorable au droit à l'avortement. On doit, lorsqu'on vote, manifester, voir, faire des recherches et voir qui sont les candidats qui représentent nos valeurs, tous partis confondus. On doit leur poser des questions sur l'avortement, sur la famille, sur leur malaise face à la pratique homosexuelle. Son mode de vie, sa personnalité, nous dit le Journal de Montréal, eh bien, diamétralement opposé aux valeurs morales évangéliques. Et ça, à ce moment-là, ça n'aide pas non plus pour justement aller chercher l'électorat, aller chercher des votes chez les évangéliques. Mais écoutez bien ce que le Journal de Montréal révèle au travers de cet article de l'agence France-Presse. Un Américain sur quatre, donc c'est autour de 25 %, un Américain sur quatre est un évangélique. Non, c'est très différent de la réalité du Québec où est-ce qu'on n'est même pas encore aujourd'hui 1 %. Et donc, un Américain sur quatre est un évangélique, donc c'est un vote vraiment crucial à obtenir. Il est presque obligatoire pour un républicain d'avoir leur soutien, explique Lydia Bean, professeure de sociologie à l'Université Baylor et auteure de la politique de l'identité évangélique. Vous allez dire, oui, mais nous, ici au Québec, là, on est moins d'1%. Même si on manifeste un appui pour un candidat ou pour un chef, est-ce que ça va faire la différence? Écoutez, entre vous et moi, là, y a-t-il une grosse différence entre 1% et 2%? Vous savez que le réseau LGBT, là, le groupe mobilisé, le groupe organisé de lesbiennes, de gays, de bisexuels et de transsexuels, eh bien, représente, selon les données les plus récentes de Statistique Canada, environ 2% des Canadiens. 2% des Canadiens. C'est pas beaucoup plus. Mais savez-vous quoi? En moins de 20 ans, ils ont réussi à obtenir l'union civile des conjoints de même sexe, le mariage des conjoints de même sexe, l'adoption de conjoints de même sexe, donc les conjoints de même sexe peuvent adopter des enfants, des subventions pour des changements de sexe, et ils ont travaillé pour modifier la Charte des droits et libertés et le Code criminel pour ajouter qu'on ne peut plus discriminer l'identité et l'expression sexuelle. Auparavant, dans la Charte des droits et libertés, c'était uniquement l'orientation sexuelle qu'on ne pouvait pas discriminer. Et c'est pour ça que l'Ontario, en Ontario, on peut s'identifier sous l'autre sexe sans avoir subi l'opération. Donc, sur mon permis de conduire en Ontario, si je suis un Ontarien, c'est écrit, si par exemple j'étais un résident de l'Ontario, je pourrais tout simplement remplir un formulaire, payer 37$ et dire, bon, ben maintenant, Éric Lantier est une femme. J'ai pas besoin de changer de sexe par une opération médicale, chirurgicale. J'ai simplement, je veux m'identifier à l'autre sexe. Je veux m'exprimer sous la forme de l'autre sexe. Et donc, maintenant, on ne peut pas discriminer, on ne peut pas m'empêcher de le faire. C'est pour ça que l'Ontario a amené justement à avoir des lois dans cette direction-là, parce qu'il revendique ces droits-là. Et donc, c'est ce lobby LGBT qui est derrière ça. Mais je poursuis avec l'article parce que le temps nous bouscule. Ce qui est intéressant, reprend-elle, donc cette auteure du livre « Politique de l'identité évangélique », Lydia Bean, eh bien, voici ce qu'elle nous dit. Ce qui est intéressant, reprend-elle, c'est qu'il n'y a absolument aucun argument à faire valoir. Il n'y a aucune légitimité à se poser en leader chrétien. En coulisses, les leaders évangéliques ne le soutiennent pas. Je relis. Ce qui est intéressant, reprend-elle, c'est qu'il n'y a absolument aucun argument à faire valoir. Il n'a aucune légitimité à se poser en leader chrétien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les leaders évangéliques ne le soutiennent pas. Bon, ça veut dire qu'ils vont l'accueillir à l'université Liberty University par politesse, parce que quand même, il se présente et a demandé de pouvoir parler à l'électorat évangélique. Les leaders, eux ont dit, bon, OK, par politesse, on va t'accepter, mais on ne te soutient pas vraiment. Ils ne diront pas ouvertement, mais c'est ça qui se passe. Mais ce qui arrive, c'est que il y a un sondage de NBC News SurveyMonkey qui disait que 35% des évangéliques songent l'appuyer. Donc, c'est un petit peu plus d'un tiers qui l'appuie, même si les leaders ne sont pas favorables à Donald Trump, parce que c'est un homme coloré, c'est un homme qui n'est pas souvent pris au sérieux. Eh bien, à ce moment-là, il y a quand même des gens. Et Donald Trump va tenter de bénéficier justement de cette décentralisation des évangéliques pour essayer de récolter le plus de votes possible. Et pour quelle raison un peu plus d'un tiers d'évangéliques songent l'appuyer? Eh bien, c'est parce que justement, à cause de ces déclarations anti-musulmanes. Et c'est ça qu'il faut faire attention parce que souvent les évangéliques, je parle avec énormément d'évangéliques, et ils se disent, bien, puisque les musulmans ne sont pas chrétiens, eh bien, on doit s'opposer aux musulmans. Et ça va jouer contre nous. Ça va jouer contre nous, les évangéliques. Savez-vous pourquoi? Parce que plus qu'on va restreindre les musulmans ou les islamiques, plus qu'on va restreindre leur liberté, eh bien, plus que ça va. Et c'est clair que si on restreint les libertés des musulmans, eh bien, ça va avoir une répercussion sur la liberté des évangéliques. puisque on met tous les théistes dans un même paquet. Les lois, le gouvernement a tendance à mettre toujours les lois sous un seul modèle unique. En anglais, on dit « one size fits all ». Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent sur la question de la restriction des libertés. Et on doit veiller à ce que le gouvernement ne limite pas nos libertés. Oui, on doit encadrer tout ce qui concerne l'identité de la personne et la sécurité publique, c'est clair. Mais en ce qui concerne la liberté d'expression, la liberté de conscience et la liberté de religion, il faut faire attention. Alors, si vous avez intérêt, si vous avez le goût, si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante, c'est leblogueur@ericlantier.net, leblogueur@ericlantier.net, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net, c'est le www.ericlantier.net. Alors, chers auditeurs, merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Ainsi, je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!